Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, le Centre d'études pour l'action sociale se passe et ses partenaires de la société civile, notamment la coalition Transparence RDC, reconnaissent quelques efforts fournis par le chef de l'État et son gouvernement, quand bien même plusieurs promesses n'ont pas été réalisées. C'est l'essentiel du rapport sur l'évaluation des engagements publics des autorités politiques en RDC, présenté hier mercredi ici à Kinshasa. Au Nord Kivu, reprise des combats hier mercredi sur plusieurs axes entre les rebelles du M23 et la coalition des groupes armés et les FARDC. La société civile de Massissi affirme l'occupation le même jour de certaines entités, notamment celle de Kiloluré, sur l'axe Sake-Kichanga par les rebelles du M23, ce qui accroît la menace sur la cité de Sake, mais aussi Mushaki sur l'axe Massissi-Centre. L'invité de ce journal est le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO et représentant pays du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Patrick Vahard est en séjour à Kisangani, où il a entrepris une série d'activités en rapport avec la médecine légale et les droits de l'homme. Et d'abord, cette bonne nouvelle pour une grande partie des habitants de la ville de Kinshasa, du côté ouest. Il est désormais possible de quitter Binza Pompage ou Malweka et de se rendre à Lupen en Galiema en véhicule sans passer par la route de Matadi. L'asphaltage de l'avenue Nzolana et ses déviations Bumba et Kinshasa est à présent terminé. Il ne reste que les trottoirs, la signalisation et l'éclairage. Le ministre des Travaux publics est allé s'en rendre compte hier mercredi sous la pluie avec des partenaires, sous la conduite du directeur général de l'Agence des grands travaux. Il salue les efforts fournis et se réjouit du gain du temps. Suivez plutôt Alexis Guissaro dans cet extrait sélectionné par Babel Mpongo Massimango.
Ce projet a été conçu pour terminer pendant l'année 2024. Nous avons pu, grâce à des efforts intenses que je tiens à souligner ici, et je tiens vraiment à féliciter tant l'Agence congolaise des grands travaux que l'entreprise Crequit qui a réalisé les travaux ici, nous avons pu économiser en termes de temps 6 mois. C'est pour dire combien les équipes qui étaient sur terrain ont travaillé avec intensité, ont fait des sacrifices énormes pour que cette population, avant la fin de l'année, c'était ça notre objectif, que nous puissions rendre cette route à la population qui l'attendait, une population qui va voir sa vie transformée à cause de l'achèvement de cette route. Nous avons été soutenus dans ces travaux par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne cesse de nous assiéger pour que nous puissions transformer la ville de Kinshasa, rendre la circulation plus fluide, qu'il n'y ait plus d'embouteillage dans la ville. Dans les 15 jours maximum, la circulation sera désormais fluide sur cette avenue-ci.
Notez que cette route fait la joie des habitants de près de 10 quartiers longtemps enclavés comme Sangamamba, Bomalibala et autres. Sauf imprévu, l'inauguration officielle par le chef de l'État est prévue ce mois de novembre. Dans l'actualité, le Centre d'études pour l'action sociale et ses partenaires de la société civile, notamment la coalition Transparence RDC, reconnaissent quelques efforts fournis par le chef de l'État et son gouvernement, quand bien même plusieurs promesses n'ont pas été réalisées. C'est l'essentiel du rapport sur l'évaluation des engagements publics des autorités politiques en RDC, intitulé Repère, présenté hier mercredi ici à Kinshasa. Selon Emmanuel Mabunguta du mouvement Justice en Action, l'objectif de cette démarche est de promouvoir la culture de redevabilité dans le chef des gouvernants, mais surtout pousser les Congolais à s'approprier les engagements pris par les responsables politiques. La coalition Transparence RDC relève dans ce rapport la montée en puissance des services de renseignement militaire impliqués dans les arrestations de plusieurs personnalités. Emmanuel Mabunguta est au micro des radios Okapi.
En ce qui concerne les secteurs de la sécurité, il y a l'engagement de l'humanisation des services de renseignement et cet engagement qu'il avait pris d'installer son quartier général à Beni. Le deuxième secteur, c'est le secteur de la justice. C'est l'engagement de la matérialisation d'une juridiction spécialisée dans la lutte contre la corruption, le détournement, le blanchiment des capitaux. Nous reconnaissons au moins les efforts du simple fait qu'à un moment donné, nous avions fait la création de certains organes de la justice tels que le CNAREF, l'IGF, la PLC et d'autres organes. Mais cela n'a pas suffi. Lui, il avait clairement dit qu'il y aurait une juridiction spécialisée dans la lutte de ces fléaux. Cette matérialisation n'a pas eu lieu. Par rapport au dernier engagement qui est celui de l'année des grands travaux déclaré devant le Congrès, il avait parlé de 9 projets et de ces 9 projets, il en résulte que 2 ou 3 ont été réalisés. D'autres n'ont pas été lancés, d'autres attendent encore quelques mesures préalables. Il faudra noter que nous ne sommes pas dans une bonne lancée. À un moment donné, nous avions vu que c'était l'ANR. Aujourd'hui, c'est la montée en puissance des services de renseignement militaire, l'ex-DEMIAB, où nous avons le cas Frank Diongo, Lynx Omelonga, Stanis Bujakera, Salomon Escadela et à plusieurs autres cas repris dans ces rapports.
Il faut noter que ce rapport s'est focalisé sur les secteurs de la sécurité, la justice et les infrastructures et concernait les promesses faites dans le cadre de la campagne électorale et pendant et au cours du mandat qui va vers sa fin. Vers la mise en place de politiques et de stratégies nationales de protection sociale en vue d'appuyer les financements du cycle des relèvements sociaux des groupes vulnérables constitués entre autres des femmes, enfants, personnes souffrant d'un handicap physique ou mental ou encore des personnes issues des minorités ethniques ou des peuples indigènes en RDC. C'est ce qui justifie l'organisation hier mercredi à Kinshasa d'un atelier réunissant différents acteurs de la société civile sous les auspices du Fonds national des promotions et des services sociaux FNPSS. Les échanges ont porté également sur l'élaboration de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux de protection des groupes vulnérables en RDC. Suivez à ce sujet le ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga, qui a présidé ces travaux. Il est au micro de Jean-Marc Matouaki.
Le but est de permettre à notre pays de se doter d'une loi cadre qui consacre les principes fondamentaux de protection des groupes vulnérables et qui fixe une parafiscalité et des financements innovants à verser au Fonds national de promotion des services sociaux en vue d'appuyer le financement du cycle de relèvement social des groupes vulnérables en tant qu'établissement public jouant le rôle d'interface et de tiers payeur pour financer les charges de ce relèvement et ce, en réponse à l'exigence constitutionnelle.
Parlons à présent du processus électoral au Sud Kivu. La société civile locale émet des craintes quant au déroulement de ce processus. Le groupe thématique de travail, élections et bonne gouvernance dit relever certains défis qui risquent selon elle d'entamer la crédibilité du reste du processus électoral. Elle demande à la CENI, au gouvernement congolais, aux partis politiques et même aux médias de prendre chacun des dispositions pour un bon déroulement de ce processus au Sud Kivu. Des détails avec Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Le groupe thématique de travail, élections et bonne gouvernance s'exprime à travers une communication intitulée « Nous voulons des élections libres, transparentes et apaisées ». Cette structure relève notamment l'omission des noms de certains électeurs sur les listes de la CENI, le non-affichage de ces listes dans tous les centres d'inscription, mais aussi la campagne électorale précoce en violation de la loi et l'escalade de certains propos injurieux et haineux. Ainsi, elle recommande à la CENI de convoquer le cadre des concertations en vue de lever les options par rapport aux omis et autres électeurs sans carte d'électeur, de faire signer à tous les candidats à tous les niveaux d'un code de bonne conduite avant le début de la campagne électorale proprement dite, au gouvernement congolais de décréter la gratuité de l'obtention du PV de perte de la carte d'électeur, aux partis politiques d'assurer l'éducation civique et électorale de leurs militants respectifs. Les médias du Sud Kivu doivent s'abstenir de relayer tout propos haineux et de bien vouloir équilibrer les débats entre les acteurs politiques. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu, Radio Kapi.
Nous poursuivons notre série de reportages débutés le lundi dernier sur les déploiements du matériel électoral par la CENI dans la province de la Tchopo à un peu plus d'un mois pour la tenue des élections générales dans le pays. Le secrétariat exécutif provincial de la CENI dit avoir déployé l'essentiel de son matériel électoral dans l'ensemble de sa zone de compétence, non seulement dans les bureaux de vote de Kisangani, mais aussi dans ceux des antennes territoriales. Pour Aimé Lihaha, secrétaire exécutif provincial de la CENI, la Tchopo est prête à ce jour, sur le plan logistique, à organiser les scrutins aux dates fixées. Le point avec Jacques Moukonkoli.
Dans tous les 6 territoires de la Tchopo ainsi qu'à Kisangani, la CENI dit avoir déployé déjà son matériel électoral. Dans l'ensemble, ce sont des kits bureautiques et des formations, déclare Aimé Lihaha, secrétaire exécutif et provincial de cette institution. Elle souligne que même quelques kits sensibles figurent dans ces lots. Par ailleurs, la CENI rapporte que l'entrepôt de Kisangani, fort de sa capacité d'accueil, sert également les territoires de Lubutu et Punia au Maniema, Walikale dans le Nord Kivu et la Mongala dans les Grands Équateurs. Tous les territoires du Bas-Zouélé sont également servis en matériel à partir de Kisangani, hormis Poko, ravitaillé depuis Isiro, ville plus proche. Plusieurs moyens ont été utilisés pour l'acheminement de ce matériel à destination. Il s'agit des motos et des véhicules. Des baleinières sont également mises à contribution pour atteindre les entités situées le long des cours d'eau. Par rapport aux difficultés enregistrées dans ce déploiement, Aimé Lihaha dit n'en avoir rencontré aucune de nature à entraver son travail. Néanmoins, elle déplore l'état des routes qui influe négativement sur le délai d'arrivée à destination sur certains axes routiers. Qu'à cela ne tienne, elle croit qu'à l'allure où vont les choses, tout le matériel sera déployé dans le temps voulu. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, je le disais en titre, reprise des combats hier mercredi sur plusieurs axes entre les rebelles du M23 et la coalition des groupes armés et les FRDC. Ces combats ont été enregistrés notamment dans la région de Kilolure, dans le Masisi, ainsi que Kibumba et Buhumba sur l'axe Goma-Rutshuru. La société civile de Masisi affirme l'occupation les mêmes jours de certaines entités, notamment celle de Kilolure, sur l'axe Sake-Kichanga par les rebelles du M23, ce qui accroît la menace sur la cité de Sake, mais aussi Mushaki sur l'axe Masisi-Centre. Telesphore Mitondeke, rapporteur général de la société civile de Masisi, décrit ici la situation qui a prévalu hier mercredi. Il est au micro de Sifa Maguru.
Depuis la grande matinée de ces jours, de violents affrontements ont refait surface dans la région de Kilolure. Il y a encore une fois de nouvelles vagues des populations qui s'observent depuis la grande matinée de ces jours. Des populations qui se déplacent tantôt vers la cité de Luchebere. Plusieurs familles déplacées sont arrivées sur place à Katale. D'autres prennent la direction de Kaniro dans le groupement de Boabo. Que l'opinion le sache, les terroristes sont arrivés à Kilolure après de violents affrontements certainement. Alors d'autres agglomérations environnantes qui aussi restent sous une menace extrême, parmi lesquelles la cité de Mushaki, sans oublier la cité de Sake qui aussi reste dans les viseurs des terroristes du M23, et aussi la direction de Karenga dans le parc national de Virunga, doivent aussi être très bien contrôlées pour essayer d'arrêter l'hémorragie et chercher comment dissuader ces terroristes du M23.
Notez que sur l'axe Kibumba, plusieurs sources parlent des combats à l'arme lourde qui ont eu aussi lieu hier mercredi après une journée d'accalmie. Du côté des Bambo, la situation est restée tendue et les forces sont toujours présentes dans la zone. Jusqu'ici, l'armée n'a pas encore communiqué sur cette situation. Une grande partie de la ville de Goma, à nouveau dans le noir. La ligne moyenne tension de la société Virunga Énergie, réparée mardi, vient de subir de nouveaux dégâts causés par des affrontements d'hier mercredi. Ces dégâts interviennent moins de 24 heures après le rétablissement d'électricité. De nouveaux affrontements entre les groupes armés et les rebelles du M23 dans les territoires de Nyiragongo ont à nouveau endommagé les installations de cette société d'électricité située à Kibumba. Celle-ci dit être dans l'incapacité d'assurer la distribution du courant dans la ville de Goma et ses environs. Dans son communiqué hier mercredi, Virunga Énergie déclare mettre tout en œuvre pour assurer la réparation de la ligne dans le plus bref délai. À Goma, plusieurs acteurs de la société civile, notamment les jeunes, des universitaires et chercheurs ainsi que les barrages intercommunautaires ont échangé hier mercredi sur l'opération Springbok Monisco FRDC contre les rebelles du M23. À l'issue des échanges, plusieurs participants ont exprimé leur perception vis-à-vis de cette opération qui vise à protéger la ville de Goma et la cité de Sake, notamment contre la menace des rebelles du M23. Pour certains, cette opération est à saluer car elle vient apporter un plus aux efforts fournis déjà par l'armée. La plupart d'entre eux ont appelé toute la population à accompagner cette opération et ne pas se fier à la manipulation de certains acteurs politiques qui font recours à la désinformation pour intoxiquer la population. Suivant certains participants au micro d'Alain Wandimoï.
Je m'appelle Stéphane Lupao. Je viens ici pour le compte de Baraz à la voisine intercommunautaire du Nord Kivu. Personnellement, je trouve que l'opération Springbok qui vise à protéger la ville de Goma des menaces ne peut qu'être saluée par les membres de nos communautés que nous représentons. Nos attentes, c'est qu'effectivement, il y ait des actions concrètes en termes de mesures préventives.
Je suis sergent Kabika Bashunga. Nous savons tous que ce qui circule déjà dans l'opinion, il y a beaucoup de désinformations, mais nous, à notre niveau, l'opération Springbok, c'est vraiment une grande opportunité de pouvoir garder ce qui peut encore se sauvegarder. Parce que nous sommes en guerre, nous restons positifs parce qu'on est derrière notre armée, nous faisons confiance aux opérations que notre armée décède sont en train de mettre sur pied. Et le partenaire qui s'est joint à nous, on sait déjà que la Monisco est en train de partir, il est dans son contexte de transition, mais nous pouvons que accepter cette opération et pouvoir l'accompagner surtout.
Actualité internationale.
Madagascar, mercredi 8 novembre, le rassemblement du collectif des 10 a été marqué par un rare niveau de violence dans la capitale. Symbole de cette journée, les images devenues virales de manifestants, une partie de la joue arrachée par un tir de flashball des forces de l'ordre. Au moins 5 autres personnes ont été blessées et un député de l'opposition arrêté. Guinée, les recherches se poursuivent pour retrouver Claude Pivi. L'ex-colonel et ministre s'est évanoui dans la nature après sa surprenante évasion samedi dernier. Depuis les débuts de la semaine, Conakry est quadrillé par l'armée. Les perquisitions, surtout menées par les forces spéciales, continuent dans plusieurs quartiers de la capitale. Des opérations que les populations jugent nécessaires, tant la réputation des soldats aguerris, des Pivi est répandue. Mais beaucoup de citoyens se plaignent également des abus de la part des FDS.
L'invité
de ce journal est le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO et représentant pays du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Patrick Vahar est en séjour à Kisangani où il a entrepris une série d'activités en rapport avec la médecine légale et les droits de l'homme. Il s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Patrice Vahar, bonjour.
Bonjour.
Vous séjournez actuellement à Kisangani depuis le dimanche 6 novembre. Qu'est-ce qui vous a amené au chef-lieu de la province de la Tchopo?
Nous avons un bureau ici qui fait partie des agences fonds et programmes des Nations Unies. C'est quelques-unes des rares présences de la communauté internationale, des acteurs humanitaires et des développements. Il était normal pour moi de venir d'abord m'enquérir des conditions de travail et de collaboration entre mon bureau et les autorités provinciales. Mais également, il me revient que ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre de 6 jours a profondément déstructuré et endeuillé plusieurs familles. J'étais venu m'enquérir de la situation, de solidariser aussi avec les autorités et les populations de ce traumatisme-là pour voir comment est-ce que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme peut contribuer à la cohésion sociale, mais également à la lutte contre l'impunité.
Monsieur le directeur, vous avez remis ce lundi divers matériels et équipements aux juridictions civiles et militaires ainsi qu'aux barreaux de la province de la Tchopo. Quelle en est la signification?
La meilleure protection des droits humains se fait à travers les cours et les tribunaux, à travers l'état de droit, à travers des institutions fortes. Les autorités judiciaires et les auxiliaires de justice, notamment les avocats, que ce soit la justice civile que militaire, font d'énormes efforts. Nous sommes venus exprimer notre solidarité, mais aussi notre soutien à ces autorités-là.
Monsieur le directeur, selon vous, à quoi cette dotation peut-elle contribuer?
Ces dons contribuent pour nous à une meilleure administration de la justice, mais aussi qui va leur permettre de rapprocher la justice du justiciable.
Vous avez rencontré l'autorité provinciale, d'autres personnalités. Ils vous ont fait part de la situation des droits de l'homme, des violences dans la province de la Tchopo. Quelle idée vous faites de la situation des droits de l'homme dans cette entité?
Et bien évidemment, les questions de lutte contre l'impunité, les questions foncières, mais aussi les conflits intercommunautaires créent un climat, bien entendu, d'insécurité.
Par rapport à cette situation, quelles solutions préconisez-vous?
La réponse, d'abord dans la sensibilisation des communautés, surtout à la veille d'une échéance électorale particulièrement importante pour le présent et l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous avons convenu de multiplier nos efforts, de mutualiser les efforts pour sensibiliser les communautés sur les valeurs qui unissent les Congolaises et les Congolais et décourager les discours de haine et tout ce qui pourrait les diviser ou inciter à la violence. Je crois que c'est une action qui est assez importante.
Que faire pour que toutes ces violences, toutes ces atrocités qui ont été commises ne restent pas impunies?
C'est tout le sens de notre appui et de notre partenariat avec les autorités judiciaires. Nous sommes en train en ce moment de les former sur tout l'aspect de la médecine légale, dans toutes ses composantes, des autopsies, exhumations, aux analyses d'ADN et à la géolocalisation et tout cela, parce que c'est important que des enquêtes soient menées, aboutissent et que le droit puisse être dit.
Pour terminer, monsieur le directeur, la communauté de Kisangani tout entière réclame à corps et à cri l'érection d'un mémorial pour les victimes des atrocités, des guerres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Oui, Madame la gouverneure nous a fait l'honneur de nous adresser une requête dans ce sens. Mais le BCNUDH est une des plus petites agences des Nations Unies avec des moyens très très limités. Nous avons répondu favorablement en disant que nous étudierons la possibilité, plutôt que d'avoir un grand mémorial, peut-être de commencer par une stèle en la mémoire de tous ces parents qui malheureusement ont perdu la vie, mais également pour envoyer un message à nos enfants que l'impunité ne sera pas le principe, ou du moins l'héritage et la leçon que nous voulons leur laisser, mais plutôt la justice, la cohésion sociale et le pardon, la compréhension.
Patrice Vahar, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité, Patrick Vahar, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO et représentant pays du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Il s'entretenait à Kisangani avec Jacques Moukonkolé. Fin de ce journal qui a été coordonné et supervisé par Pelé Kipela Mondo, Pierre Diassinois, la mise en onde. Je vous dis infiniment merci de l'avoir écouté.